Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, donc bienvenue à votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc je vous rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, que jeudi prochain, justement, nous allons être le 15 mars, journée internationale contre la brutalité policière, des manifestations un peu partout dans le monde pour dénoncer la brutalité policière. Donc ces manifestations, ou plutôt cette forme d'expression, demande au gouvernement de mettre fin à l'abus de l'autorité. Et si cette manifestation légitime d'ailleurs est toujours active et de plus en plus populaire et mouvementée, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous avez tous d'ailleurs constaté combien de victimes se sont défilées dans cette émission pour dénoncer les abus de l'autorité, et je vous assure que le nombre n'est pas en baisse. Donc l'impunité policière est devenue une pratique courante et les citoyens n'ont plus confiance dans le système. La politique fait malheureusement grandement défaut. L'attitude du gouvernement libéral, et plus précisément celle de Jean Charest, n'est pas du tout encourageante. Nous savons tous maintenant comment le Premier ministre gère des situations de crise de société. Il nous a fait la démonstration à plusieurs reprises et dans plusieurs dossiers. C'est simplement de faire la sourde oreille. Une pratique inique et suicidaire, critiquée et dénoncée publiquement. Mais nous sommes aussi devant l'arrivée du 15 mars. C'est une journée contre la brutalité policière et nous avons en parallèle, des milliers d'étudiants en grève, en colère contre le gouvernement Charest qui désire augmenter les frais de leur scolarité. Définitivement, ils sont de plus en plus solidaires et déterminés à atteindre leur objectif. Et nous souhaitons que Jean Charest n'attend pas la dernière minute pour reculer comme il est de ses habitudes. De crainte que justement le nombre d'étudiants se convertira à des braises qui vont activer en ampleur un feu qui est déjà mis en marche. Donc il ne faut surtout pas blâmer la ministre de l'Éducation, Madame Lynn Bouchon. La pauvre, elle n'est qu'une marionnette dans les doigts de Jean Charest, c'est justement l'homme de la bêtise. Il pense que la politique, c'est de tourner le dos et attendre que ça explose. Voilà, espérons que le Premier ministre décolle par moment de son projet du Grand Nord, du point G si vous préférez, et revenir au réel pratique en pratique. Nous avons tous bien compris que le Grand Nord est la seule voie, ou plutôt la seule carte qui lui restait à jouer pour parvenir à son troisième mandat. Donc, il reste que le grand nombre, malheureusement, a toujours existé, il existera pour les siècles à venir, avec ou sans Jean Charest. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui soi-disant assure la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. J'ai à mes côtés mon collègue Roland Cazès, qui m'accompagnera au long de cette émission, et Edgar Robin, pareil. Madame Perlader, une escarpée de l'injustice qui vient, elle aussi, nous donner son avis concernant cette journée internationale contre la brutalité policière. J'ai également avec moi ce matin deux invités. Il s'agit de Monsieur Anthony Nido et son fils Vincent Nido, deux victimes d'abus de pouvoir qui veulent témoigner à visage découvert, et vous allez suivre aussi ce feuilleton interminable de l'abus de l'autorité et le goût de l'injustice dans la voix des victimes. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nous revenons avec la suite de cette émission.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les raquetteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et des portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baphome scène est à la lune.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société. Aujourd'hui, nous avons consacré la première partie à l'anniversaire de cette journée du 15 mars, journée internationale contre la brutalité policière. Et je poserai directement la première question peut-être à Roland Cazès, mon collègue. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez que les manifestations du 15 mars, journée contre la brutalité policière, est nécessaire, et à votre avis, pourquoi?
Moi, je trouve que, définitivement, il faut absolument que notre organisation policière change du tout au tout. Ces gens-là se cachent. Non pas parce qu'ils ont un masque pour le gaz lacrymogène ou autre. Non. Ils se cachent pour faire leur mauvais coup. En plus de ça,
ils cachent leur
matricule.
Ah, vous parlez de... Masque. Ok. C'est-à-dire que le matricule, il n'est pas visible pour que les gens puissent...
Donc, ça veut dire qu'ils ont l'intention de faire des coups bas.
Oui, ça,
et moi avis. J'estime que c'est légitime, un policier dont le matricule est présent. Et s'il n'est pas présent, ce n'est plus un policier à mes yeux, à moi.
Oui, je suis d'accord. Mais j'aimerais bien savoir, Roland, vous ne m'avez pas répondu à ma question, est-ce que cette journée est nécessaire et pourquoi? Ça, je veux savoir.
Elle est nécessaire, et non seulement elle est nécessaire, c'est pour que les gens puissent enfin s'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui restent dans leur coin, ils ne bronchent pas, ils sont âgés, ils sont fatigués. Ça dure des années, avoir des recours contre les policiers. Moi-même, j'ai une cause contre eux, et ça fait 3 ans. Écoutez, les gens ont peur des fois de parler et les policiers les intimident.
Mais le rassemblement, surtout cette fois-là, je l'avais bien dit, il y aura aussi, vous savez que les étudiants sont en grève, comme je l'avais souligné.
C'est légal, c'est l'évolution.
Oui.
Écoutez, chaque année qu'une femme passe à l'université fait augmenter le PIB du pays.
Oui.
Alors, il ne faut pas oublier une chose, que les étudiants ne sont pas riches. Alors, s'ils travaillent de deux ou trois jobs en même temps que leurs études, eh bien, ils vont finir par décrocher, ils vont être écœurés à un certain moment, ou alors ils vont choisir juste des jobs de docteur et d'avocat.
Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je repasserai la question peut-être à Mme Daher, qui est là justement pour exprimer son opinion. Pensez-vous, Mme Daher, que cette journée-là est nécessaire?
Cette journée est primordiale dans le monde entier, pour mettre les policiers à leur conscience. Il faut qu'ils retournent à leur conscience, parce que s'il n'existait pas ce que le 15 mars, là, la brutalité policière, oui, cet événement important pour tous les citoyens, oui, de par le monde entier, jamais ce système ne changera. Oui. Il ne pourra pas changer si on ne manifeste pas, si on ne dénonce pas, oui, parce qu'au fond, les policiers, ils sont là, ils écoutent toutes nos dénonciations. Oui. Malheureusement, ils deviennent encore plus farouches et plus arrogants qu'avant.
Parce que justement, les politiciens
les encouragent.
C'est pas juste qu'ils les encouragent, ils disent à la population qu'il n'y a pas d'abus d'autorité.
Exactement, ils
dénient. Et justement, ces manifestations-là, qui sont des milliers de personnes qui vont sortir à la rue, justement pour montrer à quel point ils ont tort. Est-ce que j'ai raison?
Exactement, oui. Et vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, d'ailleurs, tout ce qui démontre que ce que vous dites est vrai, c'est sont les milliers et les milliards de citoyens de par le monde entier qui dénoncent ça. Oui. On ne peut pas descendre dans la rue comme ça pour rien et simplement pour s'amuser ou pour une cause qui n'est pas importante.
Oui. Il faut le dire, hein, les manifestations, c'est l'évolution.
Exactement.
D'un peuple.
Oui,
c'est l'évolution d'un peuple, c'est le réveil.
C'est la démocratie.
C'est la démocratie.
Oui,
et vous savez, au Québec, on en a fait des manifestations.
Oui.
On a évolué énormément grâce à ça.
Oui. Je voudrais, excusez-moi, prendre quelques minutes simplement,
oui,
pour me remercier et avec ceux et celles qui me joignent en ce moment, pour remercier M. Hadj Zaitouni, président du mouvement Action Justice, qui a pris cette belle initiative, cette mission qui nous donne le droit de pouvoir dénoncer tout ce que nous endurons par la brutalité policière. Et j'ai honte de parler de la brutalité policière, de prononcer seulement ce mot brutal, parce qu'il y a quand même des policiers qu'on doit respecter, et mais une minorité, c'est vrai, mais il y en a aussi qui sont bons. Mais la brutalité policière continue. Et c'est grâce à vous, M. Hadj Zaitouni, que nous sommes là pour pouvoir dénoncer, parce qu'on sait très bien que les policiers nous écoutent, et peut-être en dénonçant, ils vont reprendre conscience des actes brutaux qui sont en train de nous faire préjudice contre des femmes, des étudiants, et pourtant ce sont leurs enfants. Si leurs enfants faisaient partie, ils n'auraient jamais agi de la sorte. Il faut que chaque policier considère chaque citoyen comme un des siens. À ce moment, je crois que le monde changera et il n'y aura plus de brutalité policière.
Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas normales, oui, et on les accepte et il ne faut pas accepter
la brutalité
policière. Nous sommes dans un pays démocratique.
On ne peut pas accepter, c'est inacceptable, mais malheureusement, le gouvernement qu'on a, ce n'est pas un gouvernement pour le pays.
Moi, je demande que les policiers, un casier judiciaire, lorsqu'ils font des coups, que ça soit inscrit dessus pour qu'on puisse les renvoyer, les pas bon, les pourris, c'est qu'on garde les bons pères.
Mais il faut toujours, si vous me permettez, il faut toujours dire qu'il y a certains policiers qui sont très bien.
Ils
font le travail. Heureusement que nous avons, je dirais même presque la majorité, si vous voulez, des policiers qui sont excellents. Si
chapeau,
font le travail comme un chapeau aussi.
Chapeau,
mais malheureusement, une pomme.
Ils n'ont plus,
pourrie,
ils n'ont pas le pouvoir.
Une pomme pourrie peut pourrir.
Pourrir toutes les autres.
Toutes les autres, oui. Maintenant, je passerai maintenant à Edgar, mon collègue Edgar Robin. Avez-vous quelque chose à dire à propos de cette journée-là? Est-ce que pensez-vous qu'elle devra exister, oui ou non?
Certainement, ça doit exister. D'après moi, je pense qu'effectivement, il doit y avoir plus de journées semblables. Ah. Je pense qu'à Montréal, pour l'instant, je pense que chaque anniversaire du jour où quelqu'un a été tué par la police, il doit être une action pour prendre conscience, parce que effectivement, il y a une fois par année, c'est pas assez.
Oui.
C'est pas assez.
Ah, vous pensez qu'une fois par année, c'est pas assez?
Non,
encore.
Pas de tout. Je pense que
je suis complètement d'accord avec vous aussi.
Oui.
Hein.
Il faut.
Mais vu quoi? Vu l'évolution, vu la dégradation du système ou quoi?
Ouais, ça c'est une autre chose. Ça semble que maintenant, il n'y a pas une semaine qui passe sans avoir un acte de brutalité policière.
Ouais.
Il y a des
je ne sais pas.
demi-douzaine de gens tués cette année déjà, mais c'est pas juste des gens qui sont tués, il y a d'autres abus de pouvoir.
Mais nous, je peux juste vous assurer, M. Edgar, que nous, le téléphone n'y arrête pas de sonner.
Ouais.
Ça veut dire on reçoit, vous allez voir aussi, chaque jour, quasiment, je peux passer une émission où pour dénoncer justement un abus de pouvoir dans notre... Et vous allez même écouter aujourd'hui, j'ai des invités aussi qui vont parler aussi, malheureusement, de la gravité.
Aussi, ils encombrent les tribunaux avec les itinérants. Oui. Écoutez, 35 000 plaintes, 35 552 plaintes, 15 millions qui demandent à des itinérants. Oui. Ils encombrent le palais de justice et les causes qui sont valables ne passent pas à cause que... On joue avec les itinérants, absents, SDF, sans domicile fixe.
C'est ridicule.
C'est ridicule. Oui, mais... Alors comment peut-on avoir des policiers aussi intelligents que ça?
Mais Roland, peut-être que je vous reposerai aussi la question à vous, parce que vous savez que, si vous ne savez pas, que l'année passée, justement, il y avait 239 manifestants qui ont reçu des amendes en entrave à la circulation routière. Alors comment pouvez-vous que les gens manifestent sur la rue, ou de chez eux, ou sur le toit, pour ne pas pouvoir avoir des amendes? Est-ce que, c'est ce que ça vous semble sens. Ça vous semble un sens?
Ça n'a pas de sens.
On arrête quelqu'un qui se manifeste et vous êtes en train de entraver la circulation routière.
Ils veulent empêcher les gens de manifester comme ils font pour les étudiants. Donnez-nous votre itinéraire et puis là on va vous bloquer là, puis vous n'aurez pas le temps de manifester. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a de la brutalité après.
Aujourd'hui, ça semble que l'SPVM essaie d'utiliser les lois municipales pour...
Manipuler.
C'est ça, effectivement, de diminuer vos droits de manifester. Oui. Moi, j'ai été accusé de flânage, ça c'est complètement ridicule. Juste l'autre dimanche, devant l'église unitaire de Montréal, un policier a dit que j'étais dans une zone d'autobus. C'est quoi ça? Je suis en train de manifester.
Vous avez eu une pancarte, j'imagine, et vous manifestez. Quoi.
C'est
vous
ça, j'ai manifesté. Il est arrivé, les premiers mots de sa bouche étaient « tu peux pas rester ici ». Il dit pourquoi? Il a dit parce que vous êtes dans une zone d'autobus, premièrement. Puis deuxièmement, vous avez des pancartes par terre. Alors, ça fait pas de sens.
Ça, c'est pas juste ridicule. C'est-à-dire, il faut trouver n'importe quoi, n'importe quelle excuse pour justement mettre une.
Il y a un manque de respect pour les droits démocratiques, c'est ça.
Vous avez reçu une contravention
avant? Non, rien. Ils sont partis.
Oui, madame Dyer.
Oui, j'ai de la misère vraiment aujourd'hui. Et j'ai envie de pleurer, non pas vraiment de rire, mais ce qui se passe, c'est invraisemblable. J'ai de la misère de parler encore maintenant, dans ce siècle que nous vivons, de la brutalité policière. Monsieur vient de dire qu'il a eu une contravention parce qu'il flânait. Moi, j'ai été séquestrée au métro Montmorency par deux policiers en santé mentale. C'est eux qui étaient en santé mentale. Ils m'ont accusée d'être en santé mentale. Ils m'ont séquestrée. Ils m'ont donné deux constats d'infraction pour flânage pendant qu'ils venaient d'arriver. Ils m'ont dit, madame, ça fait une heure qu'on vous a vu flâner. Mais monsieur, vous venez d'arriver, je ne flânais même pas, je montais les escaliers roulants. Et j'ai eu deux constats d'infraction. J'ai été séquestrée dans une petite chambre, une toute petite chambre, et un des policiers a fermé la porte pour m'intimider. Je suis une femme qui est quand même âgée, malade, et ils n'ont pas eu aucune compassion. Et voilà ce qui se passe.
C'est bien, madame Dyer, excusez-moi, nous sommes toujours dans la brutalité policière. On va juste faire une petite pause musicale et on va revenir pour la continuité de notre émission d'aujourd'hui.
The wall, talking all that jive,
got me backed up against the wall,
just trying to stay alive,
got me backed up against the wall,
can't spin back it all,
they got me backed up against the wall,
oh Lord. Oh,
with my boombox blasting out of nowhere, cops pull out two blocks blasting. Trace my face with biometrics, afraid I could grenade and parade like Boy Chevins. Come on, Regin Lennon slash John Lennon slash soft melanin's also minted authentic as a lost order fact. That's why my name in capital letters is all they have. Treat us like animals, stole all human citizenship. Serrano blueprints and fingerprints. Cause when you're born, they sell you phenomenally. You're my prison to the knife, then it with time's ticking. Like a hostage, chained when they try to frame us like earthquakes and climate change. But from the weakest link, I broke them up. Now I'm under investigation because I know too much. And that's real.
Talking all that jive. They got me backed up against the wall.
Just trying to stay alive. Can't stand back at all.
They got me backed up against the wall.
Oh Lord.
Just strolling while officers are holding a man on the side in the southwest side of the metropolis. Inner city kids neglected by the populace. Huh. Who's gonna teach him right from wrong? Huh. We don't even get along. We get even for treasons for all sorts of reasons. We fall apart like leaves when it's the dead season. No, we in blind in fact. We act and fight like activists. We strike with a rebel fist. It's all stand in command like a million men head in hand. Just clap in the street pack and the man back that was stolen land, and that's that, huh. They end up problem that we can't fix, cause we could do it in the mix.
They got me backed up against the wall,
talking all that jive.
They got me backed up against the wall,
just trying to stay alive.
They got me backed up against the wall,
can't stand back at all.
They got me backed up against the wall.
Oh, organize, get together and harmonize.
Hey, let's organize, get together and harmonize. Come on, come on, come on, come on.
Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct avec l'émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir dans notre société contemporaine. J'aimerais bien revenir avec Roland, peut-être, à propos le 15 mars qui s'approche avec les grèves des étudiants et tout. Est-ce que ça risque pas d'avoir un dérail?
On a fait pas mal de manifestations. Ouais. On a été agressés, même chacun de notre tour, de leur façon, la police, de cogner, avancer plus vite, courir, mais non.
Mais vous n'êtes pas le seul, il y a des centaines de personnes.
On est libre de marcher, de circuler, il n'y a pas de flânage, il n'y a pas de couvre-feu dans le pays. Mais... parce que s'il y a un couvre-feu, à ce moment-là, ou des lois de guerre, à ce moment-là, des mesures de guerre, à ce moment-là, on va les respecter. Mais pour l'instant, on a le droit de circuler de façon libre dans un pays libre. Et les policiers n'ont pas nous obligé la façon de marcher ou la façon d'activer ou d'aller. Moi, ce que je dis, là, les étudiants arrivent avec leur manifestation, là. Oui. Puis ça correspond, là, avec le droit de
pacifique,
manifester
pacifiquement.
Mais il y a toujours des casseurs. Mais c'est pas de notre faute.
Oui.
Mais moi, je sais que quand je manifestais, s'il y avait des gens masqués autour de moi, je disais, hey, dégage.
Oui.
Parce que moi, je suis honnête. J'ai rien à cacher.
Ouais.
Je suis là, puis je suis vivant et respectueux. Mais les policiers sont masqués eux-mêmes. Ils cachent leur matricule, ils cachent leur visage, ils cachent tout, puis ils vous agressent.
Et ça empêche aussi les citoyens de faire des poursuites.
Et quand vous leur demandez le matricule, vous le recevrez avec le ticket qu'on va vous envoyer. Vous recevez jamais le ticket, parce qu'ils ne l'envoient pas.
Ouais, parce qu'ils ne veulent pas dévoiler leur matricule aussi.
Et voilà.
Peut-être, Edgar, je sais qu'il y avait un étudiant qui était grièvement blessé dans cette manifestation-là.
La manifestation de mercredi, c'était une manifestation des étudiants. Ils sont rendus devant les bureaux de l'Auto-Québec parce qu'il y avait des organismes là-dedans, et les organismes des professeurs, des principaux. Po, etc., des universités. Puis, c'est ça, à un moment donné, la police, ils ont lancé ce qu'on appelle une grenade assourdissante.
Oui.
Ça semble que la grenade assourdissante peut te rendre aveugle, parce que si ça explose dans votre visage, ça peut te faire perdre un œil.
Mais elle n'est pas supposée d'être lancée en air, j'imagine, parce qu'elle
est dangereuse. Oui, ils parlent de lancer en air à 8 pieds, mais on ne sait pas quand ça va exploser.
Enfin, ça a prouvé que ça a fait défaut, quoi.
Je ne sais pas si ça fait défaut ou non, mais
on a un étudiant qui est grièvement blessé. Oui. Je ne sais même pas s'il va perdre un œil.
C'est possible qu'il va perdre un œil.
Oui.
L'autre chose, c'est que est-ce que cette entre guillemets utile de la police est vraiment utile? Ça veut dire que est-ce que il vaut la peine de l'utiliser? Parce que d'après moi, une grenade comme ça, c'est pour faire peur. C'est pour intimider, c'est pour que les gens s'éloignent, mais ça a un effet très temporaire. Les gens peuvent, à moins qu'ils aient plusieurs bombes comme ça, les gens peuvent ignorer ça.
Mais justement, Madame Dalle, je veux savoir, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à ce point? Pensez-vous que c'était nécessaire aussi d'aller jusqu'à...
Mais jamais de la vie, mais ils n'ont même pas le droit de toucher un seul étudiant. Ce sont nos enfants.
Non, mais les méthodes, Madame, les méthodes de faire ce qu'ils font.
Mais de qui prennent-ils ce pouvoir? Ces policiers ne peuvent pas agir d'eux-mêmes. Donc il y a quelqu'un de plus haut placé là qui leur donne ce pouvoir là.
Oui.
Est-ce que c'est qui? C'est le ministère, le ministre de qui?
Non mais Madame d'ailleurs, faire attention là, mais ils ont quand même une fonction les policiers aussi.
Mais non, ils ont une fonction, pacifique, une fonction.
Devant des étudiants, vous êtes en train de dire que devant des étudiants pacifiques, ils devront être pacifiques
et
eux-mêmes.
Comment? Et comment? Ils doivent comprendre l'attitude des étudiants. Les étudiants, ils sont des étudiants qui ont droit à une manifestation, surtout quand il s'agit de leur avenir.
Oui.
Les étudiants ne peuvent pas payer tout ce qu'on leur demande. Et puis Charest, là, je m'excuse, là, il disait, je suis québécois, ma famille est québécoise, mais ces enfants-là sont des Québécois, ces enfants-là sont ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a même pas, il a fait la sourde oreille. À chaque fois, il fait la sourde oreille. Je ne comprends pas comment un ministre, premier ministre, le premier ministre peut-il rester indifférent à tous ces enfants, ces jeunes qui sont maltraités par la police, blessés.
Il
n'y a pas, vous parlez d'un
non, mais là, vous savez, hier, je pense, hier.
Le jour du vote, agissez en conséquence.
Voilà. Et c'est ça que j'aimerais bien. Il y a le vote qui s'approche. Là.
Agissez en conséquence. Parce que si on est mal dirigé, il faut voter contre ces gens.
Non, mais de l'autre côté, on ne peut pas attendre 400 ans pour faire des choses maintenant. La démocratie.
Non, mais il y a une occasion qui se présente.
Écoutez, ça fait dur, parce que les gens votent pour. Oh, mais il a un beau sourire. Oh, ben il est blond. Oh, il a les yeux bleus. Écoutez, donc, votez pour des gens qui ont une tête sur les épaules et qui sont responsables et qui savent prendre les responsabilités.
Oui.
Écoutez, regardez, la dernière fois, les ministres qui prétendaient qu'avec la FTQ, ils prétendaient que des femmes avaient été battues. Et puis, c'est pas vrai.
C'est
pas vrai. Ils ont dit pareil pour les étudiants. Des filles ont été battues parce qu'elles ne voulaient pas manifester. C'est pas vrai. C'est une façon de désorganiser le système.
Monsieur Roland, ce qui me met hors de moi-même, moi, c'est ce que personne n'a réagi pour simplement un seul mot pour défendre les étudiants. Tout ce qu'ils ont fait avant-hier, c'est que parce que Monsieur Claude Legault, que je trouve un homme très honnête et courageux de pouvoir dire, il a dit un simple commentaire et là tout le monde est venu pour le confronter pendant qu'ils n'ont rien dit pour
Donc une petite seconde, on va passer à une publicité, on va passer à une annonce publicitaire et on va revenir avec vous, chère autrice.
C'est de la propagande qu'ils font.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Stop.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Reggae, Kamba, Zouk, Lambada, Bossa Nova, Fado, Hip Hop, Tagamofi, Mala, Hango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette Française, Soukous, Honk Francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.
Voilà donc, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct avec votre émission du mouvement Action Justice. C'est une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. J'ai avec moi, comme je l'avais déjà souligné, deux invités qui sont là. J'ai Monsieur Nido Anthony et son fils, non, j'ai Nido Anthony et Nido Vincent, c'est ça, j'ai bien dit. Vous êtes là ici, Monsieur Anthony, vous êtes Vincent, vous êtes le père de Monsieur Anthony.
Oui,
et je sais que vous êtes technicien
en électronique.
En électronique, et vous vivez à Montréal depuis plus que 56 ans, c'est ça?
Oui.
Et vous n'avez jamais eu de problème avec les autorités policières depuis 56 ans. Et vous êtes ici aujourd'hui pour nous raconter ce qui s'est arrivé depuis presque un an. Est-ce que c'est exact?
Ça fait presque un an et demi.
Un an et demi. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement de rester un an et demi pour revenir sur ce dossier-là et essayer de l'activer de nouveau? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre cas?
Mais il n'a jamais été actif parce que...
Mais là, vous êtes venu nous voir pour justement activer le dossier.
Oui, parce que voilà. Y a rien qui a été fait pendant un an et demi, malgré tous les efforts qu'on a faits.
Ouais,
il y a toujours
mais
eu.
Mais voulez-vous revenir un petit peu au lieu justement et de l'événement? C'était passé où? À quelle place?
C'était à Longueuil.
C'était à Longueuil, voilà.
Dans un restaurant.
Dans un restaurant. Il s'appelle comment ce restaurant-là? C'est Saboué.
Oui.
OK. Et vous étiez vous et votre fils, qui est d'ailleurs qui est avec nous aujourd'hui, qui est âgé de 26 ans. Et vous étiez allé pour acheter un.
On était trois, on a acheté trois repas pour.
C'était vous et votre fils et la conjointe de votre fils.
Son ami.
Oui. Son ami, oui. Voilà. Oui. Et vous avez fait quoi?
On a fait notre commande, puis je suis allé payer pour le manger.
Dans le comptoir, vous avez payé votre... Oui.
Puis j'ai eu, apparemment, le monsieur qui était en charge de prendre le paiement...
C'est le propriétaire.
C'est le propriétaire de la place.
Oui.
Je lui avais dit, avant de même faire la commande, j'ai dit, je voudrais payer avec une carte de crédit avec ma signature.
Voilà.
Puis il a dit, OK, c'est bien. Il a passé la carte, puis là, il me demande après pour rentrer mon NIP.
Voilà.
Moi, j'ai jamais utilisé un NIP.
Même, pour une carte de crédit, c'est ça?
Oui.
Oui, donc, c'est un changement. Oui, c'est
il y avait une transition dans ce temps-là.
Et vous avez dit que je n'ai jamais utilisé,
oui.
Donc je n'ai pas de code.
Non, je n'ai pas de NIP.
De NIP, voilà.
Ils m'en ont jamais donné.
Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, monsieur?
Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème.
OK.
Je pouvais signer.
OK.
Mais à la fin de la transaction, il m'a donné la machine pour dire rentrez votre NIP. J'ai dit, j'en ai pas de NIP.
Il vous a remis la machine et vous l'avez répété comme quoi je n'ai pas de NIP, justement.
Exactement.
Voilà.
Fait que j'ai essayé une autre carte. Peut-être j'ai pensé que peut-être cette carte-là était plus difficile à gérer. J'ai donné une autre carte, un Visa.
Et ça arrive souvent, ça.
Oui. Mais ça faisait tout le long, juste même avant et après qu'on a été là, j'ai jamais été demandé pour un NIP.
Oui.
J'ai toujours été capable d'avoir le choix de signer. En tout cas, après ça, il commençait à me dire que je prenais trop de temps. Et il fallait
vous avez ralenti un petit peu les clients étaient en arrière.
Là.
Mais ce n'était pas votre faute, finalement.
Non,
tout à fait,
En effet. Puis, rendu à un point qui, lui...
Vas-y.
Oui. Puis, en tout cas, il a essayé plusieurs... mais plusieurs fois avec la carte, mais il ne réussissait pas à me faire signer la carte. Fait que j'ai dit, je vais essayer de payer en argent.
OK.
Puis, mais avant de dire ça, le gars, il m'a traité vraiment très manquant de respect. Il me disait des choses comme, il fallait que j'apprenne comment utiliser la technologie d'aujourd'hui. Puis il fallait
mais il vous a dégradé avec des propos, c'est ça?
Il m'a dégradé en me faisant sentir que je ne savais même pas gérer ma carte.
Utiliser une carte, oui.
Oui. Mais à la fin de ça, j'ai dit, je vais essayer.
Mais vous avez répondu quoi quand on vous a dit que vous êtes, vous savez pas comment utiliser une carte, vous avez dégradé tout. Vous avez...
Mais j'ai dit non, mais c'est pas vrai parce que voyez-vous, c'est vous qui savez pas utiliser votre machine. Parce ouais. que à tous les jours, je fais des transactions de gaz ouais. dans les dépanneurs.
Et que j'étais pas supposé de rentrer un NIP parce que je n'avais pas simplement le NIP. C'est
exact,
ça. C'est clair.
Ça.
Maintenant, vous étiez là, Anthony, vous étiez devant votre avec votre père, vous accompagnez votre père. Est-ce que c'est exact?
Ouais.
Oui. Oui. Vous avez vu votre père, est-ce que vous avez réagi?
Ah oui, j'étais assis.
Oui, oui. Je souligne juste à notre auditeur que Anthony, il est devant moi, il mesure
5 pieds et 4.
5 pieds 4, et il est mince comme un clou. Et j'aimerais bien souligner aussi qu'il est technicien en informatique. Il n'a jamais eu de casier judiciaire, jamais de problème avec l'autorité policière. Et c'est, mais c'est le premier, malheureusement, ce premier événement qui a complètement changé sa vie. Pouvez-vous continuer? Donc, vous avez entendu votre père, après la discussion, le changement
oui,
des paroles avec le propriétaire de Sabouet, à Longueuil. Et comment vous avez réagi, vous?
Ben, j'ai vu qu'il traitait mon père de dinosaure.
Ouais.
Puis il a quand même,
oui,
il
ouais.
a traité de dinosaure, fossile, puis toutes sortes d'insultes.
Ouais,
puis
ouais.
moi, je l'entendais de jusqu'à la place que j'étais assis. Ouais. J'entendais à travers le restaurant, il criait. Je me suis levé, puis ouais. j'ai allé demander juste le nom du propriétaire, parce que je voulais porter plainte.
Vous l'avez dit, vous ne saviez pas qu'il était le propriétaire?
Non, je ne savais pas, je savais.
Donc juste, vous avez demandé, est-ce que je peux avoir le nom du propriétaire?
Non, je voulais juste le nom, son nom. Je ne savais pas.
Ah, le nom de la personne même.
Ouais,
vous savez pas.
Même.
Vous avez dit, donnez-moi votre nom, parce que vous avez l'intention
oui,
de déposer une plainte contre
ouais,
lui.
Exactement.
Au propriétaire, soi-disant. Et qu'est-ce qui est arrivé après, monsieur?
Rendu à ce point-là, il m'a ignoré. Il a servi le prochain client.
Et vous avez laissé parler, vous avez ignoré.
Ouais, il nous a ignoré carrément, puis il m'insultait pendant qu'il regardait au client. Il continuait à m'insulter sans me regarder même.
Qu'est-ce que vous a dit quand vous disiez qu'il m'insultait?
Bah, il m'a traité, je pense que les mots exacts, c'était trou de cul.
Ouais, c'est correct, c'est bon?
Excuse.
Ouais.
Mais il répétait tout le temps, pas une fois ou deux fois.
Il a jamais dit 12 pouces, 5 dollars.
Non, il a juste répété l'insulte.
Insulté, oui, oui.
Ouais.
Et comment vous avez. Est-ce que c'est arrivé après? Vous étiez là? Vous avez...
Ben, moi, j'ai répété de nouveau, j'aimerais votre nom. Puis,
vous avez insisté, je veux
avoir
votre nom.
J'ai juste insisté. J'ai pas approché, j'ai pas.
Vous étiez derrière le comptoir.
Oui, hein? Lui, il était derrière le comptoir. Il était beaucoup plus imposant que moi aussi. Il était 6 pieds 5, peut-être.
6 pieds 5, oui, oui.
300. Plus livre, là, il était assez gros comparé à moi. Alors, j'allais pas l'affronter physiquement.
Exactement.
Mais lui, tout d'un coup, il a tourné puis il m'a donné un coup de poing à travers.
Ah, il vous a passé un coup directement.
Oui.
Ouais, ok.
Puis j'ai
fait tomber
à
le coup.
Ah oui, mais il m'a bien eu.
Ouais.
Puis pendant que j'étais un peu étourdi, il a couru autour du comptoir.
Il est sorti du comptoir.
Étranglé. Oui, il m'a pris par la gorge puis continuait à me donner des coups de poing. Puis,
devant tout le monde?
Oui, devant au moins une dizaine de personnes.
Mais
avec des enfants qui pleuraient, puis toutes sortes.
Vous avez, monsieur Vincent, vous avez vu votre fils dans cette situation-là. Comment vous avez réagi, vous?
Je ne l'ai pas encore oublié. J'ai fait des.
Non, mais est-ce que vous avez essayé d'empêcher qu'il frappe votre fils, ou vous avez fait quoi?
Mais quand j'ai vu le monsieur courir à l'entour du comptoir, puis pogner mon garçon, puis.
En train de donner des coups, et continuer à le frapper.
Il le battait. Moi, j'ai essayé de le retenir. J'ai dit, laisse-les aller, vous allez le tuer, là.
Oui.
Vous êtes.
C'est
voyez-vous
malade,
la différence entre vous puis lui là, puis vous je savais pas comment faire autre chose, je voulais juste les séparer.
Oui.
Mais j'ai essayé de le bouger, je l'ai même pas bougé un quart d'un pouce.
Oui.
Tellement qu'il était massif.
Oui.
Moi je mesure 5 pieds 8 puis je suis peut-être 200 livres, mais j'ai pas réussi à le bouger un pouce.
Et finalement, ce qu'il a fait, il a pris votre fils, il l'a mis dehors.
Il l'a mis contre un mur, devant la porte pendant que j'essayais de sortir, il me tenait contre le mur puis il me frappait en tête.
Continuez à vous frapper.
Oui, continuez. Moi, j'essayais de sortir du restaurant, juste pour appeler la police puis attendre dehors. Mais il me laissait même pas sortir puis il continuait à me frapper.
Et je pense que c'est votre père que vous avez appelé la police.
J'ai fait 911.
Vous avez appelé la police, vous avez besoin de l'aide, là. Il y a, il y a une agression contre votre fils et vous appelez 911 pour avoir de l'aide, c'est ça?
Exact.
OK. Après, je pense, après quelques minutes, les policiers sont arrivés, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et qu'est-ce qui est arrivé, monsieur Vincent?
Mais en arrivant, et les policiers
voulaient... Ils sont arrivés, oui. Ils, sont...
Ils étaient deux policiers, une femelle, une mort.
Un homme et une femme,
Un homme et une femme. Là. Puis le policier est mort, il voulait, en commencement, il voulait menoter mon garçon. Puis
en arrivant, on a voulu menoter votre fils. Oui. Alors, vous l'avez expliqué quoi? Vous l'avez dit, monsieur, attendez, là, c'est lui qui est la victime, là.
Exact, c'est ça, vous avez les choses.
Vous avez un problème, là.
Vous avez mal entendu ce qui s'est passé.
Vous avez mal compris, oui. Mais lui, en arrivant directement, il était directement vers voir votre fils, c'est ça?
Oui.
Et vous l'avez essayé d'expliquer, est-ce que vous avez écouté?
On a essayé de l'expliquer, lui, il ne nous écoutait pas. C'est finalement son ami qui a dit au policier.
Qui l'ami? L'ami, la conjointe de votre fils.
Sablon.
Elle a expliqué au policier.
Non, elle était fâchée, elle dit, qu'est-ce que vous faites, là? Vous n'allez pas le menoter, c'est lui le victime.
Ouais.
C'est
quoi le problème? C'est que pendant qu'ils sont allés regarder la vidéo, l'autre gars,
c'est ça, c'est ça, ça c'est important de souligner comme quoi l'événement, il était devant une vidéo, il était filmé par une caméra de vidéo, c'est ça?
Oui, oui.
Ouais. Le policier y avouait que sur la vidéo, il avait vu que je n'ai pas agressé, puis il n'y avait aucune raison pour me frapper.
Ah, donc une fois qu'il était allé visionner la caméra, il est revenu, il ne vous a pas mis les menottes, il ne vous a pas touché.
Non, rendu à ce point-là, il m'a dit...
Non, mais il a dit qu'il fallait quand même aller...
Il m'a menacé que si moi, je portais plainte, j'allais avoir une plainte contre moi, puis cette soirée même, j'allais être au poste de police.
Voilà le pot vert.
Est-ce que vous saignez à ce moment-là?
Oh, j'avais du sang partout.
Il y avait du sang partout. Non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est il faut comprendre qu'elle était visionnée. Le policier va se déplacer, il va regarder la vidéo, et puis là, il revient, il dit, OK, vous pouvez partir.
Mais
et
c'est vous même avez pire dit... que ça, parce qu'il m'a avoué qu'il connaissait le propriétaire.
C'est un ami du propriétaire.
Ah, ouais. Puis en plus, il m'a dit que cette personne, il y a au moins un autre deux ou trois subways, puis il n'y a jamais eu de problème avec cette personne.
Ah, vous avez essayé de vous dire,
je
ne
devrais pas porter plainte.
Donc il vous a demandé de ne pas porter de plainte parce que le monsieur...
Il m'a convaincu, il m'a même fait peur qu'il allait amener moi puis mon père en prison en plus. Il nous a menacé que mon père même allait avoir une plainte.
Monsieur Vincent, j'aimerais bien juste, parce que là, c'est déraisonnable un petit peu. Votre fils voulait porter plainte, et le policier lui dit clairement, si vous portez plainte, je vais vous arrêter.
Oui.
C'est ça ce qu'il a dit?
Exactement. Puis il a répété.
Oui.
Au lieu de dire, vous êtes blessé, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous détraumatiser un peu, vous donner
quelques soins? Est-ce qu'il l'a amené à l'hôpital?
Hein? Non, pas demandé si j'avais
une ambulance.
Bien, oui.
Il faut pas laisser de traces parce qu'ils n'étaient pas intéressés.
Non, mais ce que j'ai bien compris, ça veut dire qu'ils ont dit que le monsieur là, on n'a jamais eu de problème, il était un bon gars.
Puis il connaissait pas personnellement. Il m'a avoué qu'il connaissait personnellement.
Et qu'il n'était pas violent, c'est ça?
Non, qu'il était jamais violent.
Alors que toi, tu étais enceint.
Moi, j'étais enceint, puis je me suis. Comme tu as dit, je suis tout petit.
Mais je vois
puis il y avait une vidéo qui montrait qu'est-ce qui s'est passé.
Non, parce que le plus important, qu'il y avait une vidéo. Et encore la preuve, c'est que le policier va visionner la vidéo, il revient sur le lieu, puis il dit, écoute, j'ai rien contre vous, j'ai pas de charge contre vous. Parce qu'il a vu effectivement que le monsieur n'a pas agi, il n'a rien fait.
Est-ce qu'ils ont gardé le vidéo?
C'est ça le problème.
Plus tard, le policier...
Maintenant, revenir maintenant, vous n'avez pas porté plainte sur le lieu parce que le policier en question, je n'avais pas envie de... On a son nom et ses matricules et tout, on ne veut pas le dévoiler aujourd'hui. Mais le policier en question, il vous a dit clairement comme ça, si vous déposez une plainte, je vais vous arrêter. C'est ça?
Oui.
Et ça, ça vous a intimidé et c'est pour cette raison-là que vous n'avez pas voulu porter plainte.
Il m'a laissé remplir les papiers puis il m'a dit si plus tard j'aimerais porter plainte, j'avais le droit.
OK. Ouais. Madame Dell?
Ça, c'est un refus d'assistance criminelle pour les victimes et ça arrive toujours comme ça. Quand les policiers viennent, ils n'entendent même pas, même s'ils ont la preuve que vous êtes la victime, ils prennent toujours la part des autres et c'est votre version contre...
Madame Dell, ça c'est un cas particulier parce que le policier en question, il semble avoir une amitié. Exactement. Ou une connaissance. Peut-être qu'il mange là souvent.
C'est quasiment de la protection.
C'est ça, c'est une protection.
C'était quand même un jeune mafia.
Oui, mais c'est ça. mais je veux savoir maintenant, monsieur Vincent, vous avez, est-ce que vous avez pris d'autres démarches après je comprends que vous n'avez pas pu, vous étiez intimidé, vous avez eu peur de porter plainte parce que les conséquences c'était vraiment de vous arrêter, de vous amener au poste. Mais plus tard, vous avez fait quoi plus tard,
monsieur? Mais moi, ce qui était vraiment frustrant, c'est que si, ils nous ont dit si on porte plainte, lui, il va faire un plein croisé, puis là, on n'aura plus de défense par la justice. Il aurait fallu prendre un avocat privé, se battre en cour.
Ça, c'est le policier qui vous a expliqué.
Oui, c'est ça,
mais vous n'avez rien
ça,
à se reprocher, monsieur André, je ne comprends pas. C'est que si réellement, et je vous crois, que c'est lui, le propriétaire qui était agresseur, c'est lui qui était l'agresseur et tout, votre fils y avait été victime et tout. Pourquoi plus tard vous n'avez pas porté plainte?
Mais, aujourd'hui, on est rendu à un point que les policiers disent qu'il n'a jamais eu de caméra, il n'était pas fonctionnel.
Voilà.
Mais ils les ont visionnés sur le rapport.
Ils ont menti quand même. Okay. Puis j'ai allé plus tard porter plainte avant.
Ça veut dire que si j'ai bien compris, que plus tard, vous avez voulu porter plainte.
Puis moi,
et ils vous ont dit qu'il n'y avait pas de caméra.
Oh, ils ont fait peur que ça. Ils m'ont amené dans une chambre. Puis un autre policier.
Ouais, dans une chambre. C'est au port de police 11 à Longueuil, c'est ça?
Oui, à Longueuil. Ils m'ont amené dans une salle qui, avec des boîtes, c'était même pas une vraie salle d'interrogation.
Oui.
Puis ils m'ont assis sur une chaise, puis les deux, ils étaient...
Mais c'est qui? C'est le même policier?
Le même policier, c'est puis un autre que j'avais jamais vu, qui était assez intimidant.
Oui, mais c'est le même policier qui était, qui a fait la...
Qui était l'ami, la première. Patron.
Oui, oui.
C'était lui de nouveau.
Non, puis excusez-moi, vous étiez allé pour déposer une seconde fois une plainte au poste de police 11 à Longueuil, et... À votre regret, vous retrouvez le même policier. C'est le même policier qui vous accueille et qui vous amène dans une salle. Oui. Et il vous pose quoi? Il vous demande quoi?
Ben, il essaie de me faire croire qu'il n'a jamais essayé de changer les idées, qu'il n'a jamais dit que je ne devrais pas porter plainte. Puis que.
Ah, lui, il a dit qu'il n'a rien fait.
Il n'a rien fait de mauvais.
Mais c'est là qu'il vous a dit, monsieur, écoutez, de toute façon, pour la caméra, pour la vidéo, il n'y avait pas de.
Moi, il n'y avait plus.
Non, ce jour-là, il n'était pas fonctionnel.
Il
n'y
avait plus de fonctionnel.
Ce jour-là, il n'y avait pas de caméra, il n'était pas fonctionnel.
Mais pourtant, le journée des événements, il vous a bien précisé que j'ai vu la caméra, il était allé visionner la caméra, c'est-à-dire qu'il a effacé complètement le trace.
Puis les témoins n'existent plus.
Les témoins sont disparus.
Mais après un an, ça, vous n'avez pas pu oublier, vous n'avez pas pu tourner la page. Pourquoi aujourd'hui vous êtes ici? Pourquoi vous êtes venu voir Maj et tout?
Mais parce qu'on s'est débattu, on a essayé tellement d'avoir un peu de justice, puis on ne s'est même pas rendu en cour. Je n'ai jamais eu le jour pour dire ma parole. Je n'ai jamais eu la journée.
Ça a été refusé.
Ils ont carrément refusé parce que l'autre gars, il a porté plainte contre moi. Automatiquement, ils n'ont même pas écouté mon
cas. Il y a une chose, par exemple, que je vous invite à faire. Dénoncer cette adresse-là et ce restaurant-là sur les ondes. Oh oui. Un fumier pareil, oui.
C'est vraiment regrettable ce que j'entends, ce qu'on entend ensemble aujourd'hui. Mais si j'ai bien compris que, alors que vous voulez faire déposer une plainte contre le propriétaire, la question de propriétaire, le propriétaire lui-même, il a fait une plainte contre vous.
Oui,
cette plainte-là, elle a abouti à la cour. Et après ça, vous étiez libéré de toute charge parce qu'il n'y avait pas de preuve contre vous.
Non, je n'ai jamais été amené en cour. Ils n'ont carrément même pas écouté le cas parce qu'ils ont dit...
Ils ont ignoré votre version totalement.
Ils ont ignoré, même pas ma version, tout le cas au complet. Ils ont juste ignoré que j'ai porté plainte.
Mais est-ce que... Je comprends que même après un an, une année qui a écoulé de cet événement-là, et vous n'arrivez vraiment pas à dégérer tout ça. Ça reste quelque chose qui est bloqué en vous, quoi.
Moi, quand j'ai vu la manière qu'il a battu mon garçon sauvagement...
Vous n'avez jamais oublié.
Dans ma tête, je me suis dit... Ça, c'est pas un cas, un incident isolé.
Oui.
Cet individu-là, j'ai une responsabilité de protéger la société contre un être comme ça.
C'est ça. Personnellement,
mon garçon, c'était très important. Oui. Mais aussi, j'ai une conscience morale vers la société.
Oui.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, si je peux au moins éviter un autre incident par cet individu-là, qui se répète.
Oui. Mais finalement, le policier était plus agresseur que le propriétaire.
Est-ce que vous avez eu, excusez-moi, un numéro d'événement? Ça, c'est important.
Vous avez un numéro d'événement?
Alors, le numéro d'événement, tout est spécifié dessus.
Oui, mais Roland...
Mais j'ai porté plainte, j'ai tout fait, les démarches.
Mais le problème, ils disent que la caméra, le film, et ça n'existe plus. C'était pas...
Vous êtes deux témoins quand même?
Oui.
Vous êtes deux témoins, le père et le fils?
Trois même.
Il y a trois, en plus de ça. Et ils ont niaisé les autres témoins, on les les laissant la pluie dehors pour qu'ils s'éclairent.
Deux témoins ont disparu. Ah. Puis...
Avez-vous été à l'hôpital?
Moi, j'ai été voir un docteur.
Oui, bien, alors, vous avez
médical. Mais là, de toute façon, nous, Mme Dahl, on va faire le nécessaire, mais
j'ai même
à cette heure-là, je sais
j'ai même fait des photos.
C'est bon, tout. Ce sont des preuves très, très pertinentes.
Ah oui. Ouais,
donc, oui.
Lui, c'est pas le, il n'est plus le plaignant, il est l'agresseur.
Les deux, en même temps.
Les deux
en même temps.
Il fait fort,
oui.
Ah
ouais, ben. Il a le dollar, hein.
Écoutez, c'est...
Je suis l'agresseur puis la victime en même temps.
On a encore des policiers très qualifiés à ce qu'on voit.
Quand on écoute des choses comme ça, vraiment, on est hors de nous-mêmes, c'est
ça
quoi?
Ça commence à faire peur.
On dirait qu'on se trouve en Irak, ou en Égypte, ou en Libye, là.
Pire, en Syrie.
Sommes-nous au Québec, vraiment?
Peut-être après...
Être un parent, oui. Monsieur Hage, puis être obligé de voir une chose de même, là.
Oui, oui.
Ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais...
Moi, je vous comprends.
Même aujourd'hui, j'ai encore des
séquelles,
couchements,
oui.
Séquelles. Ça, c'est pas... Ah, je voudrais que personne, là...
Il va vivre ce que vous avez vécu,
soit obligé de vivre...
Excuse-moi. C'est-à-dire, un parent qui est en train de voir... Roland, s'il vous plaît. Voir un parent qui est en train de voir son fils...
Puis être sans aucune puissance, être impuissant à arrêter la situation.
Oui.
Puis même après que la situation se passe, les policiers sont là pour te donner encore plus de frustration, puis même te donner encore d'autres soucis parce qu'ils veulent te tenir responsable.
Non, mais il est très
j'ai
clair.
Été traité du criminel moi-même.
Oui. Non, mais il est tout à fait clair dans ce dossier-là que le policier était encore plus agresseur et plus agressif que le propriétaire.
En manière très gentille, par exemple. Il n'y a jamais... ça a été très... quasiment... Tu étais prêt à accepter le fait que c'était il y avait trop de imprécisions dans le,
il a essayé quand de vous convaincre quand même,
il nous a fermé la bouche.
En anglais, quelqu'un qui aide un criminel, c'est un accessory after the fact.
Exactly.
Je ne sais pas le mot français pour ça, mais accessoire après le fait, c'est ce policier-là. C'est ça.
Le pire de tout ça, quand j'ai porté plainte puis pour remplir le dossier, moi, ils m'ont enfermé dans l'auto de police puis ils m'ont traité de criminel. L'autre gars, il pouvait remplir ça en liberté. Il était...
Ça, c'est le moment
non pas enfermé dans
c'est
le
de l'intimidation.
Oui, c'est de l'intimidation.
L'intimidation.
On est plus en sécurité
tout le long.
Mais j'aimerais bien, monsieur, je reviens juste peut-être pour conclure avec vous. Qu'est-ce que vous avez souhaité, vous, une fois l'arrivée des policiers? Vous avez souhaité comment les policiers vont se porter?
J'aurais souhaité que cet individu-là ait un dossier criminel. Puis il soit...
Qui est le propriétaire du lieu, celui qui est l'agresseur?
Exactement.
Ouais. Et vous n'avez pas souhaité que le policier fasse son travail comme il faut, il pose la plainte?
Ça, c'est pas à être souhaité. On a appelé la police parce que c'était ça notre protection.
C'est la protection. Vous avez demandé la protection.
Ben oui.
Et la police vient protéger.
Au moins l'impartialité, faire la protection, au moins l'impartialité, puis documenter les choses, les faits qui se sont produits.
Oui.
Non pas taire tout le monde puis essayer de mettre ça là, à côté. Il dit, vous pouvez prendre toujours ça au civil. Avec quoi? On n'a pas le nom de la personne.
Oui.
On n'a aucun dossier criminel parce qu'on l'a pas. On
et
l'a
les
pas.
Policiers qui a accompagné ce parce qu'il y avait un policier.
Deux.
Hein? Oui, les deux. Est-ce qu'il vous a parlé, la policière qui était à côté? Là? Parce qu'elle aussi, elle a un devoir aussi.
Elle
hein,
nous a fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord avec ça, mais pas verbalement, parce qu'elle était une entraînement.
Stagiaire.
Puis elle avait beaucoup de raisons pour ne pas se prononcer parce que son carrière, son futur.
Mais ça, on ne sait pas. Mais vous, elle n'a pas, elle, la policière qui l'a accompagnée, qui était en stagiaire, je ne sais pas comment vous savez qu'elle était en stagiaire, mais vous...
Ils nous ont avoué ça. Ils l'ont avoué.
Elle vous a avoué?
Ouais. Ouais. Puis elle n'a pas parlé presque tout le long.
Elle n'a pas dit un mot?
Deux, trois mots, grand max. Ouais.
Mais c'est ça, le policier a cherché exactement une stagiaire pour pouvoir défendre son ami.
Ouais.
C'est pour ça.
Coïncidence. Mais on devrait avoir une liste de policiers qui font pas leur job comme il faut. On devrait les dénoncer publiquement. On devrait le faire, ça.
Mais on dénonce.
On devrait avoir une liste avec leur nom.
Voilà, avec ça, on va un petit peu clore, fermer ce dossier-là. Et peut-être, je pense que vous avez quelque chose à dire, Edgar, pour dernier mot. Vous n'avez rien à dire, madame.
Oui, moi, je dois dire que vraiment, il faut continuer ces manifestations contre la brutalité policière pour arriver à vraiment obtenir justice et nous délivrer de toutes ces injustices qui nous portent préjudice et qui nous détruisent vie, nous et notre famille.
Voilà donc, malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste de notre émission. Je vous informe que le rassemblement pour la journée du 15 mars sera au Caribiri à 17h. Rappelez-le que le mot d'ordre est toujours d'être pacifique, intelligent. Sachez que les policiers vont tout faire pour vous provoquer, un signe dégradant de leur part pour faire la différence. Je profite pour remercier M. Nido Anthony et son fils Vincent, c'est ça ou c'est le contraire, Vincent, oui, d'avoir eu finalement le courage de dénoncer l'abus de l'autorité. Leur témoignage s'ajoute à la liste des victimes. La dénonciation de l'abus de l'autorité est un devoir de citoyen envers le bien de sa société. Et vous êtes tous invités, chères auditrices, chers auditeurs, de suivre l'exemple. Dénoncer, c'est justement décourager, sinon empêcher l'abus de l'autorité. Je remercie également Mme Parlette Daher d'avoir à son tour participé à cette émission, sans oublier mon cher Roland Cazès et Edgar Robin de leur témoignage aussi. Merci également à Jérôme Higaud pour la technique du son. Et finalement, nous remercions Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À mon nom et au nom de notre équipe, chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à vendredi prochain avec encore une autre escalade de l'injustice. À bientôt.
Ma culture, ma passion, ma raison de vivre, mes origines, ma fierté, ma zone grise. Faut pas oublier que je viens d'Abitibi, sur une terre algonquine. On m'a appris la vie avec mes joies et mes peines, ma rage, ma haine, tout ce qu'a joué contre moi-même, devenu la cause de mes problèmes et la crise d'encore. Rien à voir avec mon corps, mais je vais me battre jusqu'au bout pour défendre mon droit. Je veux suivre la voie de mes ancêtres, être la voie de mon peuple. Une langue en voie d'extinction, je veux rebâtir la nation, car je représente ma nation, bref, ma génération. Mon peuple, mes ancêtres, y'a pas mille façons. Je suis ce que je suis, puis je suis fier de l'être. Et je suis le premier de ce monde à apprendre à me connaître. Jugé par nos paroles, j'ai pas choisi les paraboles. J'aime mieux dire les vraies choses qui font de moi un porte-parole. On me dit que c'est la vie, fuck that. L'injustice qui t'instruit, mais dans le fond ça détruit. On dirait que je peux encore entendre les hurlements. Et quand on parle de mon histoire, je trouve ça dégoûtant. Mais dire que c'est nos vies, une mémoire impardonnable. La même vie sale que les enfants de Duplessis. Hostie, on a tous nos petits soucis, mais quand ça touche toute une nation. Moi je me sacrifie. Quand je vois que dans ma réserve ça tourne mal, j'essaie de changer le monde avec mes cordes vocales. Déconscientiser, d'arrêter d'ignorer. On fait partie de l'histoire, mais l'histoire est loin d'être terminée. Mettre dans les réserves, ça veut dire mettre de côté. Mais mon opinion, les derniers seront les premiers. Je suis un militant, j'ai beau me battre pour ma cause. On en mérite pas faire. Regarde ailleurs, c'est la même chose. En Afrique, les peuples blancs qui contrôlent, ils ont débarqué avec des bébés, ils ont volé les terres. Ils ont fait la même chose ici, pense vraiment que je vais me taire. Ceux qui pensent le contraire, ils se mêlent pas leurs affaires. On est mis à part et le gouvernement a fait sa part. Dur d'admettre ses torts, mais je veux vous le faire savoir. C'est bon savoir la vérité en tant qu'Amérindien. Je trouve qu'on n'a pas mérité nos espaces restreints. On dit que c'est la vie, fuck that. L'injustice qui t'instruit, mais dans le fond ça détruit. On dirait que je peux encore entendre les hurlements. Et quand on parle de mon histoire, je trouve ça dégoûtant. Mais dire que c'est nos vies, une mémoire impardonnable. La même vie sale que les enfants de Duplessis. Hostie, on a tous nos petits soucis, mais quand ça touche toute une nation, moi je me sacrifie. La loi sur les Indiens a obligé les pensionnats. Ma famille a pensé là, puis ont passé l'âge d'en parler. Renfermés sans clé de l'intérieur qui ont créé. Trop de violeurs d'enfants, trop large pour s'excuser. Pas qu'ils envoient de l'argent de l'ordre du gouvernement. Sans aucune excuse pour les viols et les attouchements. Y'a de quoi de pas normal, puis c'est pour ça que j'en parle. Puis si ça te rend mal à l'aise, baisse à toi que je parle. Y'a certaines communautés affectées par la mortalité. Des jeunes en crise d'identité, plus la même mentalité, mais la réalité, hiver comme été, on a eu le même calvaire, mais pas dans le même quartier. Je suis plutôt réaliste, loin de l'imaginaire. Malgré ma souffrance, je remets tout à la mère terre. Je parle au nom du peuple, au nom de ma nation, de ceux qui en ont souffert. Yo, bienvenue dans mon monde.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous qu'à votre décès, c'est votre famille qui décide. C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment, en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui, je veux donner mes organes. On va attendre un instant pendant que vous le faites. Bon, c'est fait. La Fondation canadienne du Rhin vous en remercie.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, hagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 102,3 FM. Radio Centre-Ville.